Bonjour, c'est Blandine pour Des brouettes et des ailes, le podcast qui raconte l'heureuse épopée de mon année. Les pieds dans la terre et le cœur dans le ciel. Épisode 4. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode. J'avais initialement imaginé cet épisode comme le prolongement du troisième avec Amélie, parce qu'en fait on avait discuté de cette étude ensemble, mais j'ai revu le format pour une meilleure cohérence d'ensemble. En fait, j'ai voulu illustrer les résultats de cette étude sur le RCI avec certains témoignages partagés lors du Festival des Oasis. Vous entendrez donc ici Mout, de Nu et Culotté pour ceux qui connaissent, Cécile Renoir et Sophie Rabhi partager leurs expériences, leurs vécus, leurs points de vue sur les sujets typiquement relationnels. Avant de commencer à parler de cette étude, j'aimerais faire une sorte d'ouverture un peu théorique plus large sur le mouvement des oasis, parce que depuis que j'ai commencé à vous partager des épisodes, j'ai eu plusieurs retours de personnes qui me questionnaient notamment sur la différence entre ce mouvement actuel et les mouvements passés, par exemple 68art, les mouvements de kibbutz ou autres. Alors, j'ai pas tout à fait la réponse, mais selon moi, malgré tout, il y a un bon nombre de différences. Malgré tout un tas de bonnes idées, de bonnes pratiques probablement partagées et expérimentées dans ces différents lieux, il me semble que la racine même de la création des écolieux et la dynamique qui est donnée au mouvement est bien différente de ceux qui ont pu exister avant. En fait, selon moi, les écolieux existent aujourd'hui parce que le constat des limites planétaires est sans appel, qu'il y a un besoin urgent de répondre à ça, et que ce constat de limite planétaire n'est plus discuté en fait par la communauté scientifique. Il y a un consensus sur le sujet. Et que même si tout le monde ne se sent pas concerné par cette problématique, il semble que tout le monde sait que les choses doivent changer. Et c'est ça en fait qui met en mouvement les écolieux, les personnes qui décident de monter ces lieux. Ensuite, sur la partie dynamique, c'est pas une dynamique localisée ou isolée qui cherche à se recréer une sorte de réalité, une société bien distincte de celle qui existe par ailleurs, avec le moins de ponts possible avec le reste du monde, puisque dans les piliers même des oasis, il y a celui de l'ouverture sur le monde. C'est donc bien une dynamique qui cherche à coopérer, qui cherche à co-construire, qui cherche à influencer surtout le modèle moderne majoritaire d'aujourd'hui. Donc pour moi, en fait, la différence, elle est assez structurante, et je pense que vous toucherez ça du doigt avec l'épisode d'aujourd'hui et les différents témoignages. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que finalement, cette évolution profonde nous rend plus heureux, en cela qu'elle nous rapproche des besoins fondamentaux de l'humanité, donc de vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec la nature, avec les autres. Pour donner un peu de repère dans cette prise de hauteur et nous sortir peut-être de mes témoignages bien concrets et localisés, quelques informations de profondeur historique et géographique sur le mouvement des écovillages. Déjà, le terme écovillage apparaît pour la première fois dans un rapport de la fondation danoise Gaia Trust, remis lors du bien connu Sommet de la Terre de Rio en 1992. Le mouvement se structure à l'échelle internationale avec la création du GEN, Global Ecovillage Network, lors d'une conférence sur la projection justement de ces communautés dans le XXIe siècle, en 1995, dans l'un des bien connus écovillages pionniers situés à Findorn, en Écosse, qui, lui, a vu le jour dans les années 1970. Le GEN est l'un des réseaux les plus visibles à l'échelle internationale puisqu'il dispose d'un rôle consultatif au Conseil économique et social de l'ONU et participe à toutes les COP. Il regroupe environ 10 000 collectifs dans les pays du Nord comme les pays du Sud, qui représentent des collectifs d'espaces ruraux comme d'espaces urbains en transition. Depuis les années 2000, plusieurs études de cas approfondies ont été menées, en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. L'une d'elles détaille d'ailleurs ce qui rassemble, malgré leurs différences, les dynamiques des écovillages du Nord et ceux du Sud, ceux qui réinventent un mode de vie post-consumériste et ceux qui choisissent simplement de ne pas y rentrer. Certains de ces travaux ont analysé également de façon plus précise la manière dont ces écovillages peuvent inspirer de nouvelles modalités de développement durable. L'IDFIN en 2014 souligne aussi que certaines inspirations issues des écovillages ont été étendues ensuite à plus grande échelle, qu'il s'agisse de technologies écologiques ou de pratiques plus larges. Par exemple, le mouvement des villes en transition, qui intègre aujourd'hui des centaines de villes au Royaume-Uni qui se préparent au changement climatique, a été fondé en 2005, inspiré par l'ouvrage de Rob Hopkins, ancien résident d'écovillages. De même, le mouvement des habitats partagés, qu'on connaît bien en France, est inspiré des écovillages. Maintenant, place au sujet d'aujourd'hui et à notre épisode. Cette étude sur l'indicateur de capacité relationnelle date de 2022. Elle a été menée à bien par le campus de la transition avec la coopérative des Oasis et le soutien de l'ADEME et du Fonds social européen. C'est une approche mixte qualitative et quantitative. Il y a eu environ une centaine d'entretiens qui ont été menés, des entretiens entre 45 minutes et 3 heures dans 10 départements différents avec environ 120 personnes interviewées. Cet indicateur, il est intéressant parce qu'il fait partie des indicateurs émergents pour mesurer une forme de richesse qui est autre que la richesse purement financière ou économique. Et on sait à quel point on a besoin aujourd'hui de ces outils pour piloter nos sociétés avec plus de clairvoyance sur les aspects sociaux et environnementaux. C'est comme une forme de contrepoids à l'unique PIB qui ne nous emmène pas dans la bonne direction à lui seul. Cet indicateur, il est structuré sur 5 dimensions. Le rapport à soi, les relations à l'intérieur d'un lieu, à l'extérieur, le rapport à la société et le rapport à l'environnement. Je vous mets tout de suite en garde, les illustrations que je vais vous proposer des prises de parole qui ont été faites pendant le Festival des Oasis ne sont pas du tout en lien avec les chiffres de l'étude, puisqu'évidemment, les chiffres sont plutôt, selon moi, positifs, voire bien au-delà de la moyenne. Ceci dit, les témoignages qui ont été faits pendant le Festival des Oasis sont plutôt des témoignages sur ce qui se passe pas bien, ce qui est compliqué. C'est évidemment plus riche pour eux de décortiquer les difficultés que de s'étendre sur ce qui se passe bien, puisqu'ils sont tous conscients, via leur choix, de ce qui est facile et doux à vivre. L'épisode va se structurer de cette manière. On va prendre chacun des 5 piliers de la relation. Je vais vous donner quelques chiffres et quelques citations parfois, et ensuite vous faire écouter quelques témoignages plus ou moins longs, quelques illustrations de Moots, Cécile et Sophie Rabhi.
Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis cofondatrice du Campus de la Transition. Il y a toute une petite équipe qui est là. Voilà. Et je suis enseignante-chercheuse en philosophie, notamment sur la question au départ de l'activité des multinationales dans les pays du Sud. Voilà, c'est notamment ça qui m'a donné l'idée, je pense, de créer le campus. Voilà, et puis par ailleurs, le projet du campus est laïque, mais je suis moi-même religieuse dans une congrégation internationale qui travaille dans le domaine de l'éducation et du développement, et ça depuis 32 ans. Voilà. Ouais.
Et moi, je m'appelle Moots, je suis vagabond depuis une bonne vingtaine d'années et je réalise notamment une série documentaire qui s'appelle Nuit et culottée, dans laquelle, avec un ami, Nance, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, on pense à lui, on part tout nu, sans argent, sans vêtements, sans rien du tout, avec un rêve qu'on se donne, un rêve de gosse. Et l'ambition derrière ça, alors c'est pas de faire du nudisme ou quoi que ce soit, c'est de partir de rien, volontairement, de voir qu'est-ce que ça donne quand on a un rêve et qu'on part de rien. Donc ça nous demande de se fabriquer un pagne avec des déchets, des végétaux dans la nature, aller à la rencontre des gens, trouver une manière de se faire confiance, et puis cheminer petit à petit vers notre objectif. Et bonne nouvelle, depuis 13 ans que je fais ça, je peux vous le rapporter, les gens sont généreux, les gens sont ouverts. Juste un petit chiffre et je m'arrêterai là. En 530 nuits sur la route, on en a passé 16 dehors. Donc les gens ouvrent leurs portes.
Sophie Rabhi, je vous la présente moi-même. C'est une femme d'une cinquantaine d'années, c'est la fille de Pierre Rabhi. Elle est la fondatrice de la Ferme des Enfants, qui est une école qui pratique la pédagogie de la bienveillance, qui est devenue une école démocratique, au sein de l'éco-village du Hameau des Buis, qui est le premier éco-village qui a vu le jour dans les années 2000. Elle est notamment connue et elle est intervenue ces dernières années sur les sujets des mécanismes de la violence au sein des collectifs. Et pendant le Festival des Oasis, elle a particulièrement parlé de la mésaventure qui leur est arrivée au Hameau des Buis, qui est vraiment un événement assez marquant pour le mouvement des Oasis et qui est très intéressant à réétudier. Donc on la remercie pour sa transparence sur ce sujet. En fait, c'est elle et son mari Laurent Bouquet qui ont été à l'initiative du projet du Hameau des Buis, qui est vraiment un très bel éco-village avec des maisons bioclimatiques, tout un projet de ferme et d'école pédagogique au sein du village. Il y a des centaines de familles qui se sont déplacées en Ardèche pour vivre autour de leur lieu qui rayonnait assez largement. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu un gros conflit qui a éclaté là, il y a quelques années, 2-3 ans. Et Sophie et Laurent ont été expulsés de l'éco-village qu'ils avaient eux-mêmes initié. Alors à travers ce vécu qu'elle repartage et décortique dans cette conférence, elle en a d'ailleurs fait un livre et une série documentaire, c'est dire comme ils cherchent à apprendre de leurs erreurs. Elle prendra la place ici de celle qui plonge dans les difficultés relationnelles
afin donc d'en comprendre la cause à la racine et de permettre à son couple et aux autres d'éviter une récidive. Je la laisse donc commencer par exposer sa définition de la violence et exprimer comment cette thématique est venue prendre une place dans sa vie.
Eh ben, chacun vraiment a son angle de vue sur ces problématiques de violence, non-violence, et puis ça se rejoint, puis en même temps c'est très subjectif et très personnel. Donc pour moi, la définition que j'ai donnée de la violence, qui m'est venue, ça a été de voir que, en même temps, il faut une forme d'intentionnalité, mais consciente ou inconsciente, de la part de l'auteur des faits, et conjointement, un ressenti violent pour la personne qui quelque part subit les faits. Donc c'est comme s'il y avait deux facettes à cette question de la violence. Parce que parfois, il y a des actes qu'on pourrait considérer comme violents, mais qui ne sont pas vécus par les personnes comme l'étant. Et inversement, il y a des actes qu'on pourrait considérer comme étant complètement non violents, mais qui peuvent être considérés par la personne qui les reçoit comme extrêmement violents. Donc les exemples sont multiples. Et même dans l'appellation, ce qu'on appelle la lutte non violente, par exemple, pour des faucheurs d'OGM ou des personnes qui vont démonter des McDo, ben pour le gérant du McDo ou le paysan qui voit son champ qui est fauché, le sentiment qu'il peut ressentir peut-être d'une extrême violence. Donc voilà, où est la violence, où elle n'est pas. C'est vraiment à chacun d'aller explorer ça. Donc voilà, la violence, elle m'a interrogée parce que lorsque j'ai grandi dans la famille Rabhi, j'ai assisté à de nombreux débats, de nombreuses réflexions, et des réflexions en acte aussi, beaucoup par rapport à l'écologie, par rapport à la terre, par rapport à la nature. Et j'assistais aussi à une forme d'impuissance face à l'état de l'humanité et ce que c'est que d'être humain avec... chez mon père, en tout cas, une sorte de désespérance, un peu. Pour ceux qui l'ont connu et qui l'ont bien connu jusqu'à la fin, il n'avait plus trop d'espoir pour l'être humain et ses comportements. Et il était arrivé à un point de pessimisme par rapport à notre espèce, qui, moi, en tant qu'enfant et adolescente, ne pouvait pas me satisfaire. Parce que, bien sûr, j'avais la vie devant moi et je ne pouvais pas... juste considérer comme une fatalité le fait que nous étions dans ces comportements-là. Et aussi, une autre raison, c'était qu'en tant qu'enfant, et là je remercie ma petite fille intérieure, pardon, c'est que pour moi, je n'arrivais pas vraiment à me relier à tous ces comportements pathologiques, toxiques, maltraitants, comme si ça c'était naturel, ordinaire et convenable, en fait. Je pense que chez nous, chez chacun de nous, il y a un enfant intérieur qui sait exactement et avec précision, et les enfants sont extrêmement précis en termes de bien-traitance, que lorsque les adultes ont des comportements qui sont brutaux, ou qui sont agressifs, ou qui sont dans la violence ordinaire, il y a un détecteur très très fiable de ça, c'est pas vraiment ok, ça c'est pas vraiment ajusté à mes besoins. Et si les bébés pouvaient parler, je pense que déjà il y a un endroit où ils pourraient protester face à ce qu'on leur fait subir, même à la maternité, à la naissance déjà, et puis après dans tous les gestes ordinaires, enfin dans de nombreux gestes ordinaires qui ne sont pas adaptés aux besoins.
Alors pour la première dimension, la dimension du rapport à soi, c'est le sujet vraiment de cultiver son écologie intérieure. Ce que dit cette étude, c'est que 93% des membres des écolieux sont dans une démarche d'écologie intérieure, c'est-à-dire un processus de cheminement personnel. Ils s'appuient essentiellement sur la reconnexion avec le vivant, la cinquième dimension, et des relations quotidiennes authentiques avec les autres, la deuxième dimension. 93%, c'est énorme. Et en fait, ce qu'on comprend aussi de cette étude, c'est que, quelque part, tout part de là. La cohérence du projet, l'authenticité dans les relations avec les autres, ça part de cette écologie intérieure et de son rapport à soi-même. Ce qui se dit, c'est qu'en se sentant de plus en plus alignés, apaisés, à leur place, les membres des écolieux sentent que leur relation au sein du lieu, envers l'extérieur, mais également leur rapport avec la société et l'environnement naturel, s'enrichissent. Quelques chiffres. Par exemple, 82% des répondants et répondantes considèrent que l'installation en écolieu représente l'aboutissement de leur démarche personnelle de transition. 86% considèrent que s'installer en écolieu les a aidés à se poser des questions sur le sens de leurs actions. Une large majorité des répondants et répondantes considèrent que l'installation en écolieu les a aidés à renforcer leur estime d'eux-mêmes, 76%, ou leur capacité à faire leur propre choix, 68%, ou encore à accéder à un modèle économique pérenne et adapté à leurs aspirations futures, 68%. C'est intéressant parce qu'on ne s'en doute pas forcément de celui-là. Cette étude dit aussi que la manière de dépenser son temps est plus choisie par cette statistique-là. À la question « Dans quelle mesure prenez-vous le temps de faire ce dont vous avez vraiment envie ?» ce qui est quand même important, 76% des répondants disent « Oui ». Et en fait, c'est 9 points de plus que le pourcentage de la donnée de référence à l'échelle européenne. Une illustration peut-être de l'expérience de Sophie sur l'importance de cette écologie intérieure.
Si on va dans un projet d'oasis ou un projet d'éco-village avec l'espoir que celui-ci va nourrir nos manques, eh bien, finalement, c'est comme si on demandait au collectif, donc à un facteur extérieur, de venir combler ce qui est difficile en nous. Ça crée une forte attente sur le projet, et en particulier sur les porteurs de projet. Là aussi, la notion de porteur de projet, il y aurait beaucoup à dire. Il y a beaucoup qui a été dit déjà. Il y a même des analyses très pointues sur les questions de personnes sources, etc., qui sont en ce moment en cours de réflexion, des réflexions qui ont déjà été bien amorcées par certains auteurs. Mais ce qui est certain, c'est que cette attente d'être satisfait, d'être comblé par un projet, elle est pathogène à mon avis. Et moi, je m'en rends compte pour moi aussi, parce que là... Je vis très différemment le premier projet du Hameau des Buis et le projet actuel de l'Oasis de Poulard, mais il y a un endroit où je vois chez moi cette aspiration au bonheur, cette aspiration à être comblée, qu'une part de moi pourrait attendre de l'environnement dans lequel je vis. Et lorsque ces pensées m'assaillent, bien sûr, je pourrais être dans la tentation d'aller revendiquer ça dans les réunions, chez mes voisins, ou d'aller râler parce que le projet n'est pas suffisamment bien, l'oasis n'est pas suffisamment comme ci, pas assez comme ça. Mais comme je me vois penser, je m'écoute penser, j'essaye autant que possible et le mieux que je peux de reprendre à moi ces pensées parce qu'elles m'appartiennent et que je... De reprendre la responsabilité de ce qui est bon pour moi et de me relier davantage et toujours plus à l'idée que pour que mon oasis soit réussi, la première chose, c'est qu'il faut que moi, je sois bien déjà, moi avec moi-même. Et que c'est l'addition et la multiplication de « je » en bon état intérieur, en bonne santé, qui va faire que le nous va aussi être en bonne santé. Et je pense qu'à mon début, on n'avait pas du tout compris ça. Alors moi, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment qu'il y ait des recettes qui permettent d'éviter ce type de conflit. Aujourd'hui, ce que je disais à certaines personnes ce matin, c'est que même les critères d'inclusion, on a beaucoup de mal à les poser avec Laurent parce que
on a tellement l'impression que il n'y en a pas des critères, en fait. Il n'y a que le quotidien, le présent, le vécu, la manière dont les uns et les autres nous allons cheminer et nous allons accueillir la relation, transformer nos peurs en peut-être en discernement, transformer... j'aimais bien, c'est Louis Fouché qui disait transformer nos colères en courage. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire de voir... Ça, c'est l'alarme pour les chèvres. Je l'enlève. Excusez-moi, nous avons aussi des chèvres, nous sommes aussi chevriers. Oui, c'est ça, c'est vraiment... plus que jamais, en tout cas, le travail que nous sommes en train d'accomplir, c'est plus que jamais un travail sur nous-mêmes avec Laurent. C'est pour ça que je ne vais pas tellement pouvoir vous emmener dans le monde des idées que pour déjouer la violence dans les collectifs, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut appliquer telle recette, la CNV, le machin, le truc. Parce que ça, on l'a déjà fait et ça ne nous a pas du tout évité de nous ramasser de manière... lamentablement violente. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous emmener sur ce terrain-là. La seule chose que je peux vraiment apporter, c'est ça, c'est la compréhension des mécanismes qui nous amènent à constater que nous sommes des êtres... je ne vais pas dire... incompétents, je pourrais dire. Incompétents, mais de manière systémique. De par l'éducation que nous avons reçue, la plupart d'entre nous, et de par la culture dans laquelle nous sommes immergés, voilà, qui fonctionne avec des relations de pouvoir, des relations de domination, que oui, dans les oasis, nous essayons de dépasser, c'est vrai, avec tous les outils merveilleux que nous avons, mais que quelque part, si nous n'allons pas déloger ces conditionnements à la racine, c'est-à-dire à l'intérieur de chacun de nous, il peut y avoir, il faut en être conscient, un moment où ce conditionnement revient au galop. Et on va se donner toutes les bonnes raisons et on va justifier d'être à nouveau violent. Et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de m'observer dans cette violence-là aussi. Donc, pour moi, c'est étrange parce que j'entends que les différentes oasis ont des vécus proches, c'est-à-dire celle du conflit, celle de la mésentente, celle du besoin de se séparer, et que les conclusions d'une oasis à l'autre sont très différentes. Parce que j'entends des oasis qui justement disent que cette question du casting, elle est essentielle. Il faut absolument vraiment trier sur les volets les personnes qui vont faire partie de l'oasis, faire des temps probatoires très longs. Il y en a qui en sont à 3 ans, je crois que c'est l'Arche, qui en est à 3 ans de période probatoire, entre les 2 ans de volontariat plus l'année probatoire. Et puis d'autres comme nous qui ont plutôt l'expérience, si au bout de 15 ans, la personne en qui tu avais le plus confiance, elle est capable de te planter un poignard dans le dos, en quelque sorte, c'est un petit peu caricatural, mais c'est un peu le ressenti aussi quand même de ce qu'on a vécu au hameau des buis. Alors ça sert à quoi sur un casting, quoi ? Parce que de toute façon, on ne sait pas du tout quel va être le devenir de la relation. La seule chose qui va nourrir et garantir le devenir de cette relation, c'est qu'est-ce que j'en fais dans l'instant présent et qu'est-ce que je fais de chaque situation. Est-ce que je suis capable de nourrir la paix intérieure, de travailler mes peurs, de travailler mes colères à l'instant même où cette personne-là me les fait vivre, en fait. Et c'est ça qui va construire la suite, rien d'autre, de notre point de vue. Bien sûr, ça reste très subjectif et personnel. Hein. Je vous demande pas d'y adhérer, évidemment. Mais voilà, donc ça, c'est l'expérience et je vois que c'est l'heure. Donc, voilà, je ne sais pas comment conclure. Peut-être vous dire... qu'on verra ce qui va se passer. Peut-être que on est... Nous, on a vraiment lâché l'idée que la destination où nous emmène l'Oasis est connue. Là, aujourd'hui, elle est vraiment... ça peut vraiment partir dans tous les sens, aller dans... Sauf que l'endroit où on met de la sécurité et de la confiance, maintenant, c'est vraiment à l'intérieur. Beaucoup plus que dans le dispositif. Voilà. Merci beaucoup.
Sur la deuxième dimension, celle des relations à l'intérieur du lieu, on en a, je pense, pas mal parlé, notamment dans l'épisode d'avant, donc je vais pas trop m'étendre. Juste quelques chiffres que je trouve chouettes. En fait, déjà, on remarque que les habitants d'écolieux font beaucoup plus confiance que l'ensemble de la population française. À la question, d'une manière générale, diriez-vous que l'on peut faire confiance à la plupart des gens, ou que l'on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres, 85% des répondants et répondantes d'écolieux disent oui, alors que c'est 30% sur l'échelle européenne. Donc, c'est 55% de plus. Et alors, quand il s'agit de la confiance des autres à l'intérieur du lieu, pour le coup, donc à la question, diriez-vous que vous aviez confiance dans les autres habitants du lieu, 98% des personnes interrogées disent oui. Donc le sujet de la confiance, il est vraiment au cœur de ce qui se vit dans les écolieux. Maintenant, deux ou trois autres exemples que je trouve intéressants. De façon générale, 83% des répondants estiment que leur installation en écolieu a amélioré la qualité de leur relation avec les personnes avec lesquelles ils vivent. Sous-entendu, prenez une famille qui s'installe en écolieu, la famille à l'intérieur même de ce noyau, les relations s'améliorent dans un écolieu versus isolé ailleurs. Ou alors, pour 74%, ils estiment qu'ils ont pu enrichir leurs relations d'amour et d'amitié et faire une plus grande place à ces sentiments dans leur quotidien. Et enfin, 73% ont pu créer des liens avec des personnes de milieux différents.
On a vécu avec suffisamment de personnes différentes dans des publics très variés pour avoir un niveau assez élevé de tolérance par rapport à plein de formes de personnalité, je dirais comme ça. Nous, on a vraiment des amis dans tous les secteurs et toutes les catégories sociales. On s'est fait des amis dans les travaux publics. Je pense à un grand bonhomme qui est très, très rugueux aussi, qu'on adore, mais on ne vivrait pas avec, pour autant. Ou aux paysans avec lesquels, qui ont pleuré quand on est parti d'Ardèche, mais qui étaient des sulfateurs, des gens qui mettaient des pesticides sur leurs vignes, et puis qui, petit à petit, avec le contact, le pastis, le saucisson et tout le reste, sont devenus des grands potes, et aussi le tractopelle. Important, le tractopelle, parce que les paysans du coin voulaient séduiser vachement avec un tractopelle. Donc Laurent, entre la tronçonneuse et le tractopelle, il a su se faire plein d'amis. Mais on adore ça en même temps. Enfin, nous, on adore avoir plein de gens différents. C'est pour ça que la notion de casting, d'élite, oasis, là, ça nous... où on est tous super développement personnel, connaissance de soi, machin. C'est un truc qu'on n'arrive plus trop à se relier à ça, parce que, bon, vous avez compris pourquoi.
Alors, pour la dimension 3, celle des relations à l'extérieur du lieu, c'est le sujet de trouver son équilibre social. Vivre en écolieu, c'est un mode de vie radical qui entraîne souvent à court terme des difficultés relationnelles avec l'extérieur, notamment la famille, les amis, parfois le voisinage, mais qui parvient à être compris, voire plébiscité pour ces mêmes personnes à moyen et long terme. Les écolieux suscitent de la curiosité et de l'intérêt et sont souvent sollicités pour des contacts, des visites, des séjours, notamment par des personnes qui souhaitent créer un habitat collectif ou rejoindre un écolieu existant. Et les ouvertures progressives sur les territoires se font via les relations interpersonnelles avec les voisins au fil du temps et avec la création de liens avec les pouvoirs publics. Si cette intégration est parfois complexe pour les écolieux, ils contribuent à la dynamique de la transition des territoires dans lesquels ils sont implantés. Quelques chiffres par rapport à ça. 66% des enquêtés disent avoir noué des relations de confiance avec les habitants et habitantes de leur territoire. 89% ont partagé et échangé en dehors du lieu autour de leur mode de vie. Pour 59%, ça a été l'occasion de participer à la vie locale, donc des activités associatives, culturelles, sportives, avec d'autres locaux, et de créer du lien. Toutefois, pour la majorité, 58%, l'installation d'écolieux n'a pas permis de renforcer les liens et les relations avec leurs proches à l'extérieur du lieu, soit de mauvaises relations qui ne sont pas améliorées, soit des relations déjà bonnes qui n'ont pas particulièrement évolué. Moi, de mon expérience, c'est que j'ai vu qu'il y avait généralement une volonté à participer à la vie du territoire, à être en lien avec les élus. C'est souvent compliqué parce qu'on peut avoir une vision un peu erronée des personnes qui vivent en écolieu. Mais par exemple, il y a des choses qui se voient. Un élu local du Moulin Bleu qui dit que, au niveau de l'entretien du bâti et de l'embellissement du lieu, en un an, ils ont fait plus que ce qui a été fait en 20 ans. Évidemment, c'est apprécié. Et après, il y a toute la dimension de comment on coopère, comment on fait société avec des gens qui sont différents de nous au sein de notre territoire, comment on accepte la différence. Et ça, il y a un certain nombre de témoignages intéressants là-dessus. Je vous mets ça.
Moi, quand j'ai commencé à prendre conscience de qui j'étais, donc je sais pas, dans l'enfance, l'adolescence, j'ai réalisé que j'avais peur de plein de choses. J'avais peur du noir, j'avais peur des autres. Ça me terrorisait quand il y avait la sonnette qui sonnait à la maison et puis que je savais qu'il allait falloir dire bonjour, puis d'une certaine manière et pas d'une autre. Enfin, il y avait tout un tas de codes qui semblaient hyper oppressants. Donc j'avais peur de plein de choses. Et quand j'ai commencé à prendre conscience des enjeux environnementaux, là, ça a été la goutte de trop. C'était genre, non mais en fait, autour de moi, dans le milieu dans lequel j'étais, il y avait tellement peu d'adultes qui avaient capté le truc et qui faisaient des choses en conséquence, c'était terrorisant. Donc j'ai eu besoin de partir. Donc à 21 ans, je suis parti faire le tour du continent américain en stop avec très peu de moyens. Et en faisant ça, j'ai découvert la joie. Mais vous savez, cette joie, j'ai redécouvert, parce qu'en tant qu'enfant, bien sûr qu'il y avait ça, mais cette puissance, cette centrale nucléaire qu'on a au fond du bide, quand on est aligné, qu'on fait un truc qui nous anime et qui fait que c'est juste naturel. Bien sûr, la fatigue arrive le soir, mais il y a quelque chose qui prend le relais. Et à cet endroit-là, quand je suis revenu de ce tour du continent américain, dont j'ai écrit un livre Eco-America, à la recherche, moi ce qui me passionnait à ce moment-là, c'était d'aller trouver des solutions, d'aller rencontrer des gens. Alors il y avait des ONG, il y avait des organismes gouvernementaux, il y avait des chercheurs, il y avait des start-up, il y avait tout un tas d'organismes que je suis allé voir pour dire « rassurez-moi qu'il existe des choses ». Donc non seulement oui, il existait des choses, mais ce qui m'a frappé, c'était de voir qu'il n'y avait pas de problème technologique, des solutions techniques, il y en a plein. Il n'y avait pas de problème d'argent. Ce qui manquait cruellement, c'était l'aptitude à coopérer. Et que ce soit dans une toute petite ONG au fin fond du Pérou ou à l'ONU aux États-Unis, c'était l'aptitude à coopérer qui manquait cruellement. Et alors ça, comment travailler ça? C'est comme ça que moi, la manière qui m'a animé avec joie de faire ça, c'était de se retrouver avec mon pote Nance. On s'est rencontrés dans une course de poubelle un peu éméchée pendant notre parcours d'intégration dans nos études. Donc voilà, il y avait déjà cette dimension qui était là. Et ça a été de partir en disant, tiens, ça donne quoi si on part à poil? Faire du stop, ok, voyager sans argent, d'accord, on l'avait déjà fait. Mais ça donne quoi si on part sans fringues, sans rien? C'est quoi la réponse de la vie? On l'a fait une fois, puis deux, puis trois. Et en fait,
France,
ça a été...
En France, vous l'avez fait.
Donc ouais, au début, on l'a fait en France. Et ce qui a été effarant, c'était de voir qu'en adoptant cette posture de vulnérabilité, de « je me mets volontairement dans une situation où je ne maîtrise pas », tout nu, effectivement, et ben, ça a réveillé l'empathie des autres. Et ça a réveillé un bouillonnement naturel de « eh, ça vous dit, on s'amuse ?» Donc là, il y a des grands-mères qui nous sortaient des fringues trop petites, trop longues. On s'est retrouvés habillés avec des trucs pas possibles. L'un de nos premiers voyages, Nance, il avait des tongs en 34 d'une petite fille. Moi, j'ai fait tout un voyage en cuissarde de pêche. On a mis des fringues qu'on n'aurait jamais osé mettre, des chapeaux de toutes les couleurs. Enfin bref, et là, je me dis, mais en fait, c'est tellement simple. Et quand on s'autorise à aller dans cet espace-là de « Hey, j'ai juste envie de me mettre tout nu, moi, c'est mon délire. Vous, c'est quoi vos délires à vous? Est-ce que vous vous autorisez à les vivre ?» Et quand on s'autorise à les vivre, la réponse qui a été implacable, c'était de voir que ça vibrait chez l'autre. Parce qu'en arrivant moi-même en premier, en baissant les armes, j'arrive pas avec un apparat vestimentaire, j'arrive pas avec de l'argent qui fait que j'exige, même si je peux dire bonjour, merci, au revoir, il y a un endroit où avec l'argent, on peut se permettre d'exiger. Bah là, quand on n'a pas d'argent, qu'on fait du stop, qu'on cherche l'hébergement chez l'habitant, on est obligé de se mettre dans une posture où il va falloir nécessairement coopérer. Il n'y a pas le choix. Il va falloir qu'on se sente l'un l'autre. Il va falloir qu'on écoute le rythme mutuel. Ah tiens, dans cette maison, il faut retirer les chaussures. Dans cette maison, il faut mettre les couverts de telle manière par rapport à l'assiette et pas autrement. Dans cette maison, on peut parler à tel moment, pas à tel autre. Il va falloir développer une écoute sensible dont on a besoin, je crois, aujourd'hui pour vivre à 8 milliards sur cette terre.
Est-ce qu'il n'y a pas une réelle différence entre la communication entre deux personnes ayant un différent et des personnes ayant des valeurs profondément différentes ? Quid de la communication avec quelqu'un de sexiste, raciste, etc. J'imagine, Moutz, que tu as rencontré tout type de profils, aussi avec des opinions politiques, idéologiques très différentes des tiennes. Comment tu noues le dialogue avec elles ?
Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est très difficile parce que ça vient appeler toutes nos résistances et ça vient taper à l'endroit de nos valeurs. Et moi, c'est devenu pas mon quotidien, mais en tout cas, c'est très, très récurrent que quand je fais du stop et que je cherche l'hébergement chez l'habitant, je tombe pas sur des gens qui pensent comme moi. Clairement pas. Sur des milliers de personnes qui nous ont hébergés, qui nous ont permis d'aller plus loin. Dans l'eau, il y a eu des sexistes, des racistes, des gens qui ont tué. Pour de vrai. Des gens qui ont violé, on a eu ce genre de confidences. Et ces gens-là, c'est vrai qu'il y a un travail qui est plus difficile pour aller chercher l'humain derrière. Pour aller chercher, je vais oser un mot fort, pour aller chercher l'innocence derrière. Je ne parle pas d'excuser les gestes, jamais. Je parle de comprendre dans quel terreau cette personne elle a grandi, comment elle s'est construite, qu'est-ce qu'elle a pris dans la tête sur son chemin de vie, et qui a fait qu'à un moment donné, elle a pris des positions. Elle fait des choix de vote. Elle fait des choix de vote où elle a conduit des actes qui sont pas OK. Bah à cet endroit-là, il y a un vrai travail de stretching, de yoga, de dire OK, mec, je te comprends pas, t'as tué. Mais alors là, faut que tu m'expliques comment t'en es arrivé à là. Et j'ai le souvenir d'une personne, Doumé, qu'on a rencontré en Corse, qui est l'un de ces hommes qui a tué deux fois. Et on est très vite au courant du pédigré du bonhomme, il en est très fier, il l'arbore, etc. On se retrouve dans une soirée où la soirée s'éternise, il boit. Et là, il nous explique pendant une bonne demi-heure comment il compte tuer une troisième personne qui est le médecin qui n'a pas sauvé sa femme d'un cancer qui était décédé un mois plus tôt. Vous voyez l'ambiance, on est au fin fond de la Corse, tout va bien. Et ce mec-là, moi j'étais terrorisé. J'ai à tout moment, en fait, il peut partir en vrille. À tout moment. Et ce mec-là, on l'a pas lâché. On l'a pas lâché, et alors par plein de manières, explique-moi et ça, comment t'envisages, d'accord, ok. Et à un moment donné, on lui a dit juste que nous, dans ce voyage-là, notre rêve, c'était d'aller peindre une fresque en Sardaigne. Et on lui a dit, nous, toutes les personnes qu'on a rencontrées, on aimerait les représenter sur cette fresque. Comment toi, t'aimerais être représenté? Moi, j'aimerais être l'agneau qui tète à sa maman. Le mec à 60 ans, c'est une masse. Quand tu regardes, tu vois dans son regard, tu dis oh, « Moi, j'ai pas envie de jouer avec toi. » Je veux être l'agneau qui tète à sa maman. Ça veut dire quoi, Doumé ? À l'âge de 8 ans, cet homme-là, il est parti en France hexagonale pour pouvoir se faire opérer d'un souci médical. Il était le 15e enfant d'une fratrie de 16 enfants. Quand il est rentré, il a trouvé porte close. En trouvant porte close, il y a un truc qui s'est fermé chez lui tellement profondément. Je ne suis jamais retourné demander un bout de pain à ma mère. Le mec, à 8 ans, s'est retrouvé dehors. Il s'est construit, à la dure. Et il a adopté le mode marche ou crève. Donc quand il y a une opposition qui arrive en face de lui, lui, il ne fait pas de la CNV. Clairement pas. Il a tué. C'est répressible. C'est juste pas OK que ça existe. Il a fait de la tôle pour ça. Et ça reste un humain. À la base, ça a été un gamin de 8 ans qui a été foutu dehors. Donc les racistes, les sexistes, les fascistes, qui vous voulez, à un moment donné, ils ont été dans les bras de leur maman. Et peut-être juste, ils ont manqué quelque chose de fondamental que nous, toutes et tous ici, on a peut-être eu un peu plus la chance de recevoir. Et quand on arrive à se rappeler de ça, déjà, on peut un peu plus s'ouvrir et se dire, Bah peut-être qu'à sa place, j'aurais fait pareil, en fait. J'en sais rien.
Sur les dimensions 4 et 5, je vous l'ai fait en même temps. Donc la dimension 4, c'est le rapport à la société. Les écolieux transforment la société en mettant en application des idées alternatives dans de nombreux domaines et insufflent la possibilité de nouveaux modes de vie plus sobres et conviviaux. Certains écolieux visent également à contribuer de façon plus indirecte à ces changements sociétaux à une échelle plus large que le territoire, notamment par des activités de formation et d'accueil. L'engagement militant est souvent peu politisé. Ceci dit, l'inclusion des plus vulnérables et la mixité sociale est un sujet complexe pour les écolieux. S'il y a de belles initiatives dans la majorité des lieux, on trouve aussi une forme d'humilité à reconnaître que pour cet aspect soit pris en compte de façon impactante, de réelles compétences sont nécessaires. Moi, j'ai entendu ça beaucoup dans la bouche des personnes de l'Arche, aussi dans le discours d'Igor de El Capitan, qui témoignera dans un autre épisode. Ces lieux-là sont des lieux qui attirent en fait des personnes qui sont dans le besoin. C'est pas toujours facile pour eux de les accueillir. Il y a souvent une volonté de pouvoir le faire, mais avec une sorte de réserve sur la quantité absorbable de personnes qui sont dans le besoin et qui ont besoin de soutien. Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Voilà, généralement, les écolieux sont des lieux dans lesquels on va trouver des personnes en situation de handicap, des familles avec des mères seules, célibataires, des migrants, on va retrouver des personnes dépressives, on va retrouver des personnes âgées qui cherchent en fait un refuge. Sur les sujets de l'inclusion, on a ce chiffre. L'installation en écolieu a plutôt permis à 60% de faire preuve de solidarité envers des personnes qu'ils ou elles ne connaissent pas initialement. Quelques chiffres sur ce sujet du rapport à la société, notamment un que je trouve particulièrement édifiant sur l'activité professionnelle. Dans les écolieux, 94% des membres trouvent du sens à leur activité professionnelle. En Angleterre, sur toute la population anglaise, c'est seulement 50%. La source, c'est YouGov. Je crois pas qu'on l'ait pour la France, mais c'est vrai qu'on parle. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de ces sujets des bullshit jobs. Tous ces gens qui disent « je cherche un sens à ma vie parce que mon travail, pour moi, n'a pas de sens ». 83% estiment que vivre en écolieu leur a permis de contribuer à une action collective en faveur de l'intérêt général. 83%. Une action collective en faveur de l'intérêt général. Et ensuite, la dimension 5, c'est la dimension du rapport à l'environnement. Vivre plus sobrement et relié au vivant, ça je pense qu'on a aussi beaucoup discuté déjà dans les différents épisodes, donc je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail. Une citation ceci dit, « Il a fallu voir derrière le désert agricole la terre brûlée par l'agriculture intensive. Avant, il n'y avait pas d'oiseaux ici. » C'est quelqu'un du centre Amar de la ferme du Plessis qui dit ça. Quelques chiffres encore une fois, 70% des enquêtés considèrent que leur installation en écolieu a eu un impact positif sur la fréquence de contact avec les milieux naturels. Et 80% estiment que vivre en écolieu leur a permis de réduire leur empreinte carbone. Voilà, j'espère que vous n'avez pas le cerveau trop farci de chiffres. Pour terminer, trois extraits. Un premier de Moots sur l'importance de comprendre les besoins des uns et des autres et des organisations pour coopérer avec la société. Cécile sur les différentes postures qu'on peut trouver en tant qu'écolieu dans la manière de coopérer avec la société, encore une fois. Et puis, une petite pépite de Moot sur l'importance de suivre sa joie. Bien sûr, pour finir, comme d'habitude, une petite chanson. Merci.
Écoutez, je vais vous apporter une petite info que moi, je trouve très croustillante. C'est que souvent, on nous dit « Ah oui, mais bon, vous êtes certainement beaucoup plus accueillis par des gens pauvres ou des gens qui ont beaucoup moins de moyens que la moyenne. » C'est vrai. Et c'est incomplet. C'est incomplet dans le sens où on a été accueillis chez plusieurs millionnaires, chez un milliardaire. Et ces gens-là, ils ont été capables de donner avec la même qualité de cœur. Ce que j'entends par là, c'est que c'est très facile de s'ériger des boucs émissaires. Quand c'est pas l'État, c'est un système économique. Quand c'est pas le système économique, c'est les riches. Quand c'est pas les riches, ça va être des gens de je ne sais quelle ethnie ou de je ne sais quelle origine ou qui votent je ne sais quoi. Et on peut rester longtemps là-dedans. Ça fait des milliers d'années qu'on est là-dedans à se dire « Oui, mais la faute, c'est de l'autre. » Ou « C'est de tel écosystème. » Ou « C'est de... » On peut rester très longtemps là-dedans. Et si vous avez envie de continuer là-dedans, je vous invite à continuer l'expérience. Et tant qu'on n'a pas assez souffert, on ne change pas. Et je vais aller plus loin. Moi, je crois profondément, même, et je reprends ce que tu disais, ça va. Effectivement, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on peut faire entre nous, interpersonnel, etc. Et puis, il y a des structures. Mais les structures, c'est quoi ? Si ce n'est le fruit d'individus et le fruit de pensées et de manières de concevoir le monde. Et pour moi, il y a une chose fondamentale à changer de posture dans un conflit. À se dire, ok, toi, tu penses radicalement opposé à moi, et néanmoins, on est sur le même caillou, on a les mêmes enjeux, on a tous besoin d'eau, d'amour, de nourriture, de se sentir en sécurité, ça c'est universel, à des degrés différents, mais les besoins fondamentaux sont universels. Si à cet endroit-là, nom de Dieu, on arrivait à se dire, mais en fait, tu vois l'autre côté du prisme, et moi, j'ai besoin de toi qui pense complètement différemment parce que tu portes une autre sensibilité. Je vais donner un exemple très concret, ça c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé avec Nance, vraiment à l'échelle toute petite de notre binôme, parce que, ok, on a beau être deux super potes, on s'engueule très souvent. Il y a plein de moments où on n'est pas d'accord. Et il a fallu apprendre à trouver des consensus, parce que quand on est tous les deux avec une caméra qui filme quasiment en continu et qu'on a un enjeu à réaliser, même si c'est un truc, on s'en fiche. Si nous, on n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais n'empêche que dans le moment, c'est notre survie qui est en jeu. Et comme vous toutes et tous, dans vos oasis, quand il y a un enjeu, ça prend beaucoup de place. Ce qu'on a découvert petit à petit, c'est que si on restait dans quelque chose de frontal, ben on est mort. On s'épuise. Les opportunités nous passent sous le nez et on perd notre joie. Si on veut garder notre joie, il y a un petit truc tout simple à faire, c'est de faire un petit pas de côté. Le petit pas de côté où, dans le positionnement, c'est « aide-moi à te comprendre, aide-moi à traduire ce que tu vois et que je ne vois pas ». Exemple très concret, on est en Guyane à un moment donné pour un départ, on est tout nu, donc c'est un moment très stressant quand ça y est, on est tout nu, on commence à allumer les caméras, on se jette dans une aventure, on a notre objectif, on n'a aucune idée de comment ça va se passer, mais il va falloir se tenir à la main. Et là, Nance a une idée de comment on va tourner notre première séquence, et moi j'en ai une autre. Et la tension monte. Et lui, il veut en fait faire genre, il y a un bras d'eau, et en fait c'est la galère, il faut traverser. Je dis, mais Nance, le bras d'eau il fait 2 mètres en sautant, on n'a pas du tout besoin d'une liane pour ça, qu'est-ce que tu me fais ? Oh putain, mais tu m'emmerdes, mais est-ce qu'on peut pas un peu s'amuser ? Et la tension monte. Et là, on s'attrape du regard, et on fait notre petit truc à nous quand la tension monte, c'est on se tourne à 90 degrés et on lâche la sauce. Tu me fais bip, j'ai besoin de spontanéité. Ok, moi ça éveille la fougue. C'est... Ouh, moi j'ai besoin d'authenticité.
Ok.
Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'on est toutes et tous, qu'on soit des personnes physiques ou des organismes, on est toutes et tous porteurs de quelque chose dont on a toutes et tous besoin. Maintenant, il faut juste être à l'écoute. Et ça demande un travail considérable, parce que c'est difficile quand on est des individus face à une grosse machine. Mais cette machine, si elle est là, c'est pas pour rien. Elle porte des besoins, elle aussi. Des besoins de cohésion, des besoins de sécurité, des besoins de viabilité économique. Peu importe, c'est des besoins dont on a besoin. Retirer un État, un système économique ou quoi que ce soit, maintenant, c'est le chaos et on finit par s'entretuer en moins de 2 jours. Ça n'est que mon opinion. L'invitation, pour moi, à cet endroit-là, c'est développer cette écoute sensible et cette posture profonde de « je choisis de coopérer avec toi, toi État, toi système économique, toi individu, parce qu'on est sur cette même terre et que de toute façon, on n'a pas le choix que de faire ensemble. »
Finalement, il y a la posture réformiste ou symbiotique, il y a la posture en rupture et il y a la posture aux interstices. Et alors, bon, souvent au campus, quand je vogue ça, on nous dit « mais vous êtes où ?» Et moi, je dis « je pense que le campus, alors, parce que le projet particulier du campus, on doit être un peu une plateforme qui permet à des personnes venant d'institutions qui sont soit réformistes, soit en rupture, soit aux interstices, de pouvoir dialoguer ensemble. » Et puis je pense que parmi nous, il y en a qui sont dans une posture qui est plus de rupture, et puis d'autres plus dans une logique interstitielle. et d'autres davantage avec ce souci aussi peut-être de faire bouger de l'intérieur. En tout cas, et je crois qu'on a besoin de tout ça. Et que dans les stratégies qu'on a, enfin, et qu'il manque parfois une réflexion stratégique sur se dire, bah, toi tu joues ce rôle-ci, toi un autre. Et bon, je termine peut-être sur l'expérience là, très récente au campus. On en a un certain nombre qui étaient à Sainte-Soline, donc qui font des actions avec Dernière Rénovation, Extinction Rébellion. Bon, et puis un mois après, on a quand même eu les renseignements généraux qui sont venus au campus, voilà, qui nous disent, j'étais avec les deux co-dirigeants du campus, et puis je leur demande combien de temps vous avez, ils nous disent tout notre temps, donc on est resté 3 heures. Puis évidemment, à un moment, ils nous disent, mais voilà, vous, donc vous êtes en lien avec Dernière Rénovation et autres. Et là, bon, ben, moi, je me suis dit, ben, il faut aussi, d'une certaine manière, être stratège pour d'abord montrer ce qui est la réalité, que le campus est un lieu dans lequel il y a des jeunes et des moins jeunes qui militent de cette façon-là. Il y en a d'autres, et d'ailleurs dont je fais partie, bah, qui essayent de dialoguer avec des dirigeants de multinationales pour essayer de et s'appuyer sur ceux qui, voilà, qui sont taraudés par les problèmes et qui essayent d'avancer sur, je sais pas, moi j'ai des amis avec lesquels j'ai bossé sur la réforme des normes comptables et qui sont des personnes qui m'ont donné accès aussi, hein, qui est dans une multinationale, qui m'a donné tous les chiffres sur les écarts de rémunération, ce qui m'a permis d'écrire un bouquin avec Gaël Giraud sur le facteur 12. Voilà, et que tout ça, pour moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à être stratège pour embarquer d'autres qui ne vont pas être, qui vont être très très résistants à une seule manière de faire. Et je crois que c'est aussi la chance des Oasis, si on en parlait avec Daphné hier, c'est de pouvoir donner une voix et pouvoir arriver à se parler. Et pour moi, ça, c'est un des énormes défis pour nous dans les années qui viennent, c'est d'arriver à ne pas être caricaturé. Pour pas être, je sais pas, les bobos. Enfin, voilà, l'autre jour aussi, il y avait là dans la manière dont on peut nous présenter, va se dire qu'il y a une diversité de profils, d'engagement complémentaires. Avec, nous, on aime bien parler au campus d'une position radicale et non marginale, c'est-à-dire prendre les problèmes à la racine, mais non marginale. En tout cas, nous, c'est se dire que, en tout cas, pour le projet qui est nôtre, essayer d'avancer avec des gens qui sont beaucoup plus loin. Et que, ben voilà, on s'en sortira pas collectivement parce qu'on est quand même plutôt dans le suicide collectif que dans la coopération. Voilà. Et donc, ça veut dire comment est-ce qu'on fait droit à tous ceux qui ne pensent pas comme nous et avancer avec. Donc, pour moi, c'est ça ce grand défi.
Je voulais juste faire un petit pont avec le début de l'échange sur la joie. Je crois qu'on est face à un enjeu qui est tel qu'il va nous falloir une énergie colossale pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Et aujourd'hui, la conviction que j'ai, c'est que cette énergie colossale, elle vient de notre joie. Donc peut-être que pour certaines d'entre nous, notre joie, ce sera faire des stages de je ne sais combien d'outils, CNV, cercle restauratif, jusqu'à plus soif, pour pouvoir vraiment être bon là-dedans, puis amener ça dans nos écolieux. Pour d'autres, ça va être occuper des ZAD pendant des dizaines d'années. Pour d'autres, ça va être aller faire copain-copain avec les multinationales pour leur soutirer des informations. Peu importe, en fait. Peu importe. Juste, faites-vous kiffer. Faites-vous kiffer, prenez la place qui vous anime, occupez-la autant de temps que ce soit joyeux, et après, moi, j'ai assez confiance que la vie fera que, voilà, la navigation, elle se fera. Et à cet endroit-là, on se donne une chance de gagner. Parce que quand on est dans une lutte qui, intérieurement, qu'on soit dans des cercles restauratifs, la CNV, ou dans des ZAD, ou quoi que ce soit, si on n'est pas à sa place, qu'est-ce qui se passe? On devient aigri. On devient en colère. Mais en colère, cette colère qui nous ronge de l'intérieur, pas la colère saine qui fait qu'on s'érige, qu'on se lève et qu'on est efficace et qu'on tape juste. Donc revenons à cet outil fondamental que les enfants nous rappellent qu'on est né avec. Et ce capteur-là, il est temps de le nettoyer pour retrouver la joie et trouver notre place dans ce monde, où que ce soit, dans les enjeux qu'on rencontre.
Les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent, moitié dans la godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même si c'est pas pour des cons. ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour ne pas que ça nous gêne, font tarder le rodeau. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime la petite chanson, même s'il passe pour les cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poids pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même si passe pour les cons. J'aime les gens qui doutent et qui voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.